Nous sommes le 30 janvier 2023, mon nom est Colette. Bienvenue à cette édition francophone des Disto News qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast et en diffusion continue sur Twitter. Notre équipe à la recherche est composée de Panda Résistance Patriote au Saguenay et de Marie-Yves à Montréal. Mais tout d'abord, je laisse la parole au patron. Vous savez de qui je parle? Bien sûr, du gars qui adore se goinfrer de toutes les recettes que je cuisine. N'oubliez pas, elles sont disponibles sur notre site Internet. Allez, mon amour, à toi de parler.
Merci, ma chérie, de me laisser la parole. C'est titré, bien entendu, Taïwan, quarantaine informatique. Est-ce que c'est envisageable? Alors, au 21e siècle, nous devrons peut-être élargir notre définition de ce fameux mot qui a été utilisé plusieurs fois dans l'histoire, le mot « blocus ». Il y a certains experts qui ont suggéré que les Chinois et la Chine sont de plus en plus susceptibles de couper l'accès à l'information directement vers Taïwan plutôt que ses exportations. L'accès à Internet de Taïwan dépend de 15 câbles sous-marins et il y a une préoccupation croissante que la Chine puisse essayer de les couper. À titre d'exemple, de ce à quoi cela pourrait ressembler, la nation de Mauritanie a été coupée d'Internet pendant 2 jours lorsqu'un câble sous-marin a été coupé pour des raisons inconnues en 2018. Bien que des technologies telles que Starlink, qui sont déployées par Elon Musk, se soient avérées extrêmement efficaces pour maintenir une certaine connectivité lors du conflit ukrainien, eh bien, il faut vous dire, mesdames et messieurs, que cela ne suffira probablement pas à maintenir l'une des économies les plus high-tech de la planète. Un autre avantage d'un blocus de l'information vers Taïwan et qu'un acte de sabotage qui se produit profondément sous l'océan est beaucoup plus facile à nier pour une nation par opposition, par exemple, à l'interception du trafic maritime en eau libre. Hein? Ben oui, c'est beaucoup plus sournois. 4 mois après la destruction d'un oléoduc sous-marin dans la mer Baltique que les dirigeants occidentaux ont rapidement attribué aux Russes, les enquêteurs disent qu'ils ne peuvent toujours pas dire avec exactitude qui était responsable de cette destruction-là. Alors, on entre dans les zones grises. L'approche de la Chine à la guerre de Taïwan dans les années à venir est susceptible d'impliquer l'escalade des activités militaires, mais ce, sans une guerre totale. Il faut se dire que les 71 avions chinois et les 7 navires qui ont été envoyés dans le détroit de Taïwan au cours de la dernière semaine de 2022 étaient un signe de cette nouvelle normalité. Ces manifestations militaires pourraient être combinées à ce que l'on appelle des tactiques de zone grise, des actions provocatrices qui visent à saper le système politique taïwanais et qui énervent sa population, bien entendu, mais qui ne peuvent pas être directement liées à la République populaire de Chine. Celle-ci pourrait aller de l'intensité allant des campagnes d'information en ligne aux assassinats ciblés. Une madame, disons, de Becca Wasser, boursière principale et spécialiste des jeux de guerre au Center for New American Security, CNAS, a déclaré que l'avantage des tactiques de la zone grise, c'est leur faible coût par rapport à des options comme une invasion ou un blocus militaire complet. Il est très difficile de prévoir un scénario où le Pentagone va suggérer d'entrer dans une guerre plus large avec les Chinois, à moins que la Chine n'ait elle-même commis un acte de guerre éclair, a déclaré la madame. Aucune de ces options ne s'exclut mutuellement. Madame Wasser a déclaré qu'il est probable que les tactiques de la zone grise puissent être utilisées en conjonction avec la pression économique ou de la force militaire. Et même militaire dans ce cas comprend un éventail d'options. Le CNOS a également mis au sort des scénarios où, plutôt que d'attaquer Taïwan elle-même, la Chine s'empare d'une ou de plusieurs îles entre les deux pays. Une telle attaque, si elle est couronnée de succès, serait un coup politique et stratégique majeur pour Taïwan. Même si elle est menée rapidement et avec succès, elle serait beaucoup plus moins susceptible d'entraîner une guerre totale ou une intervention internationale dans ce théâtre d'opération-là. Alors, il faut se poser la question, la Chine peut-elle gagner à Taïwan sans une guerre totale? Alors, bien que la Chine ait été clairement un belligérant et qu'elle est... Elle dispose d'un éventail d'options, à moins d'invasion pour faire pression sur Taïwan, eh bien, il est moins clair que l'un d'entre eux accomplira l'objectif de Pékin de forcer Taïwan à abandonner son autonomie et à se soumettre en plein contrôle politique de la part de Pékin. Il faut dire qu'il y a des décennies de pression politique et économique n'ont fait que tourner l'opinion publique à Taïwan plus fermement contre la Chine. Une pression plus concertée ou même un blocus complet, ça pourrait produire un effet de rallye autour du drapeau taïwanais qui ne ferait que raidir la détermination des citoyens de Taïwan. Il faut dire pourtant que la pression est susceptible de se poursuivre et il est susceptible d'être composé avant les élections présidentielles de Taïwan en 2024 et de grimper en réponse aux futures actions américaines dans le sens de la visite de Nancy Pelosi qui sont jugées provocantes par Pékin. Mais, écoutez, il faut se dire que le nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy, le républicain de Californie, bien entendu, il serait en train de planifier sa propre visite à Taïwan. Le gouvernement chinois est pris entre un statu quo inacceptable, c'est-à-dire l'indépendance de facto de Taïwan, et une ligne de conduite, c'est-à-dire la guerre, qui serait indiciblement coûteuse et pourrait bien être désastreuse pour Pékin. Alors, pour ces seules raisons, il y a de fortes chances que la Chine essaie toutes les options imaginable et, bien entendu, une des options les plus payantes à court terme et les moins dispendieuses tant au niveau politique que militaire, eh bien, c'est de placer Taïwan dans une quarantaine informatique. La zone grise pourrait être exploitée par les Chinois à fond de train. Bon, de retour avec Colette.
Distoman se hace malo, ja, ja, ja. T'étais un peu hésitant dans la narration de ton blog. T'es nerveux, mon chéri? Besoin d'un massage? Ou d'un autre dessert? Allez, je m'occupe des choses sérieuses. Maintenant, place aux nouvelles importantes de la journée, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté la Corée du Sud à apporter un soutien militaire à l'Ukraine, estimant que le pays a un besoin urgent de munitions. La Corée du Sud a envoyé à l'Ukraine du matériel tel que des masques à gaz, des gilets pare-balles et des fournitures médicales, mais elle a refusé de fournir des armes létales, invoquant une loi qui l'empêche d'armer les pays engagés dans des conflits. J'adore les kimchi. La Corée du Nord a fourni des missiles Wagner pour une nouvelle offensive russe en Ukraine. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, la Corée du Nord a fourni des missiles au groupe russe Wagner, alimentant ainsi l'opération spéciale en Ukraine. Le secrétaire de l'OTAN a dit « Nous constatons qu'il se prépare à une nouvelle offensive. » Dossier à suivre. Le chancelier allemand Olaf Scholz met en garde contre une course à l'armement de l'Ukraine, alors que celle-ci multiplie les demandes d'avions de chasse et de missiles à longue portée. M. Scholz a obtenu du président Biden qu'il envoie des chars modernes à l'Ukraine au début du mois, mais il a déclaré que l'envoi d'avions de chasse était impossible. Après, il dit qu'il n'y a aucun danger de guerre. Drôle de gars. Le président ukrainien Zelensky a lancé son dernier appel en faveur d'une augmentation des livraisons d'armes quelques jours après que l'Allemagne et les États-Unis ont pris la tête d'une liste de pays acceptant de fournir des chars modernes. Samedi, Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait besoin du missile ATACMS fabriqué aux États-Unis, d'une portée d'environ 300 km, que Washington a jusqu'à présent refusé de fournir. Un conseiller présidentiel a déclaré que des discussions étaient en cours sur la fourniture de missiles à longue portée et un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a parlé de négociations sur la fourniture d'avions. Selon les défenseurs des droits de l'homme russes et les responsables ukrainiens, des milliers de condamnés ont été tués, souvent quelques jours, voire quelques heures après leur arrivée au front. Ceux qui survivent et rentrent chez eux gardent le silence, craignant les représailles s'ils parlent. La décision du président Vladimir Poutine d'autoriser un groupe de mercenaires à recruter des condamnés russes pour soutenir son effort de guerre faiblissant marque un tournant dans son règne de 23 ans, estiment les défenseurs des droits de l'homme et les experts juridiques. Cette politique contourne les précédents juridiques russes et, en renvoyant chez eux certains criminels brutalisés en les graciant, risque de déclencher une violence accrue dans la société, soulignant ainsi le prix que M. Poutine est prêt à payer pour éviter la défaite. Depuis juillet, environ 40 000 détenus ont rejoint les forces russes, selon les agences de renseignement occidentales, le gouvernement ukrainien et une association de défense des droits des prisonniers, Rachebienva, qui combine les rapports d'informateurs dans les prisons russes. L'Ukraine affirme que près de 30 000 ont déserté ou ont été tués ou blessés, bien que ce chiffre n'ait pu être vérifié de manière indépendante. La plupart des hommes enrôlés purgeaient des peines pour des délits mineurs tels que des vols et des cambriolages, mais les dossiers d'une colonie pénitentiaire consultée par le New York Times montrent que les recrues comprenaient également des hommes condamnés pour viols et meurtres multiples. Lundi, la Russie a déclaré aux États-Unis que le dernier pilier du contrôle bilatéral des armes nucléaires pourrait expirer en 2026 sans être remplacé, en raison des efforts déployés par les États-Unis pour infliger une défaite stratégique à Moscou en Ukraine. La Russie et les États-Unis disposent encore de vastes arsenaux d'armes nucléaires qui sont actuellement partiellement limités par le nouveau traité START de 2011, qui a été prolongé en 2021 jusqu'en 2026. Ce qui se passera après le 4 février 2026 n'est toutefois pas clair, bien que Washington ait indiqué vouloir conclure un accord de suivi avec la Russie. Interrogé sur la possibilité pour Moscou d'envisager l'absence de traité de contrôle des armes nucléaires après 2026, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré à la nouvelle agence d'État RIA, « C'est un scénario tout à fait possible. » Ryabkov, le plus haut diplomate russe chargé du contrôle des armements, a déclaré que les États-Unis avaient, ces dernières années, ignoré les intérêts de la Russie et démantelé la majeure partie de l'architecture du contrôle des armements. Le nouveau START pourrait bien en être la victime. Nous sommes prêts pour un tel scénario. La guerre en Ukraine, les menaces de la Chine provoquent le retour de l'anxiété nucléaire. Voici une enquête qui fait pousser les cheveux. Par rapport à il y a 5 ans, diriez-vous qu'il y a une plus grande chance, une moindre chance ou à peu près la même chance d'une guerre nucléaire? L'enquête est née d'un sondage YouGov. Ce sondage a émergé à un moment charnière. Une note de service écrite par le général de la US Air Force, Mike Mignon, prédisant la guerre avec la Chine a été rendue publique par NBC News il y a 72 heures. Le général 4 étoiles a donné au commandant d'aile du commandement de la mobilité aérienne jusqu'au 28 février pour signaler leur effort majeur pour se préparer à un tel conflit. Nous faisons donc maintenant l'expérience de ce que les psychologues en sont venus à appeler une anxiété nucléaire ou nucléotuphobie, pour utiliser un terme plus clinique. Les deux phrases étaient des produits de la guerre froide, mais réapparaissent en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voici ce que le sondage a révélé. 42% des adultes américains sont d'accord pour dire qu'il y a maintenant une plus grande chance d'une guerre nucléaire. 48% des républicains, 38% des indépendants et 41% des démocrates sont d'accord. 31% d'autres dans l'ensemble disent que les chances sont à peu près les mêmes qu'il y a 5 ans. 32% des républicains, 31% des indépendants et 28% des démocrates sont d'accord avec cela. Aussi, 10% dans l'ensemble disent qu'il y a maintenant une probabilité moindre de guerre nucléaire par rapport à il y a 5 ans. 10% des républicains, 9% des indépendants et 12% des démocrates sont d'accord. Et enfin, 17% dans l'ensemble ne savent tout simplement pas. 10% des républicains, 22% des indépendants et 18% des démocrates sont d'accord. Le sondeur a interrogé les répondants de 24 groupes démographiques différents couvrant les préférences politiques, la race, le sexe, l'idéologie, l'âge, les lieux de résidence et les revenus. Les répondants qui ont voté pour l'ancien président Donald Trump aux élections de 2020 ont eu le sentiment le plus prononcé ici tous. 50% d'entre eux ont déclaré qu'il y avait une plus grande chance de guerre nucléaire à cette époque. Les personnes âgées de 45 à 64 ans et les répondants ayant un revenu de 100 000 $ par an étaient parmi les plus convaincus que la guerre nucléaire était dans l'avenir. Et quelques conclusions à noter. 47% des libéraux et des conservateurs et des blancs anticipent une guerre nucléaire. Ceux qui étaient les moins convaincus du conflit futur étaient les Noirs, 29%, et les Hispaniques, 35%, Le sondage auprès de 1500 adultes américains a été mené du 21 au 24 janvier. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre bulletin de nouvelles audio. Nous vous invitons à consulter une multitude de vidéos, de textes et de contenus disponibles sur notre site internetdisto.ca. Et n'oubliez pas les capsules vidéo de Distoman qui sont diffusées régulièrement sur YouTube et Twitter. Bisous et bonne journée.
Surveillez la sortie du quatrième épisode de VEF World le 15 février 2023 disponible sur toutes les plateformes de podcast et en diffusion continue sur Twitter.
Watch for the release of the fourth episode of our audiobook, VEF World, on February 15, 2023. Available on all podcast platforms and streaming on Twitter.
VEF World Episode 4, The Fourth World War Begins.
VEF World Episode 4, Der Vierte Weltkrieg
Mondo
Begins.
VEF Episodio 4, Inizia la Quarta Guerra Mondiale.
VEF World Episode 4, La Quatrième Guerre Mondiale Commence.
Master Armand, Master Armand.
So fucking shoot him. I don't got tone.
Got the second one.
I got the second one on the nose right now.
Hey, I'm high cover on you.
Get a fuck. Get a lock him up. Lock him up.
Man, shoot him, Patch, too.
I can't. I don't have a fucking phone.
Allie, please. Allie, please.